de la puce à l'oreille.
La puce à l'oreille.
De la puce à l'oreille.
Qu'elles poussent en pleine campagne ou dans votre jardin, les dites mauvaises herbes ont souvent été utilisées comme des légumes par nos ancêtres avant l'apparition des variétés domestiques. D'autres ont été cultivées comme plantes potagères à une époque avant d'être délaissées et chassées des jardins. Et si l'on goûtait à nouveau à ces herbes sauvages, riches en nutriments, économiques, aux saveurs douces ou au contraire prononcées, et affichant même parfois des propriétés médicinales ou des vertus pour soigner les autres plantes? Je laisse le soin à Hélène Guyon de nous présenter ces délicieuses sauvageonnes à l'occasion de la visite de son jardin au cœur du Vernet d'Ariège.
Il est où ton jardin ?
Alors mon jardin, il se situe en plaine d'Ariège, c'est-à-dire c'est un sol qui a été formé par les anciens glaciers quand ils ont fondu. La rivière est à 10 mètres en contrebas et c'est un sol qui est assez fertile, assez facile à cultiver, hein. C'est un sol qui est assez aéré. J'ai commencé à cultiver sur un terrain qui a été vraiment malmené par une agriculture intensive. Et il m'a bien fallu 4-5 ans avant de pouvoir retrouver toute cette vie sauvage dans le jardin.
C'est quoi ton métier ? Est-ce que tu vends tes plantes ?
Alors, mon métier, c'est plutôt d'expliquer comment fonctionne le jardin, comment on peut jardiner sans produits chimiques pour respecter la nature, respecter la vie dont on a besoin, parce qu'on a besoin de la nature pour vivre. C'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous fait respirer au travers de toutes les feuilles, voilà, qui utilisent le carbone de l'air et qui nous le restituent sous forme d'oxygène. Voilà, bien sûr, je cultive les légumes, c'est pour ma consommation personnelle, pour en donner quand je récolte trop aussi, ça, l'échange au jardin, c'est aussi quelque chose de formidable.
Comment tu fais pour jardiner sans produits chimiques ?
Si je mets des produits chimiques dans mon sol, il va mourir très vite. Les petites bêtes du sol vont mourir, les bactéries, tout ça. Et je vais utiliser des plantes pour soigner les plantes. Par exemple, le purin d'ortie pour fortifier, hein, en arrosage sur le sol. Et puis aussi les feuilles de rhubarbe, par exemple, contre les insectes. Quand j'ai une attaque, vraiment, on ne peut plus rien récolter. Donc si les coccinelles ne suffisent pas, je vais peut-être pulvériser de la tisane, des coctions de rhubarbe, soit de la tisane de tanaisie aussi. Et puis la prêle. Contre tout ce qui est l'attaque de petits champignons microscopiques. Alors ça, ce sont des plantes fondamentales, l'ortie, la prêle, la tanaisie ou la rhubarbe, qui vont m'aider à vraiment, si y a un trop grand déséquilibre, parce que y a des conditions climatiques qui vont faire qu'il va y avoir beaucoup de pucerons ou beaucoup de champignons, beaucoup de rouille, et bien à ce moment-là, je vais utiliser d'autres des plantes, les facultés des plantes à détruire ces champignons ou ces insectes trop envahissants. Mais vraiment, j'essaye de très peu intervenir et de faire en sorte que le sol soit vivant et dans des bonnes conditions aussi d'ensoleillement, tout ça, que chaque plante soit bien à l'aise pour bien vivre et du coup, elle saura se défendre toute seule de beaucoup de maladies.
Il n'est pas très propre ton jardin, il y a plein de mauvaises herbes.
C'est pas un jardin propre, c'est un jardin plein de compagnons, que ce soit des compagnons végétaux, que ce soit des compagnons de petites bêtes qui pollinisent, voilà. Parce que propre et net, pour le jardin, c'est juste l'image qu'on veut donner de soi aux autres. Mais un jardin en bonne santé, c'est pas un jardin propre et net. C'est un jardin où il y a une négociation entre le sauvage et entre le cultivé pour une bonne entente.
Mais c'est quoi des sauvages ? C'est des plantes qui t'attaquent ?
Alors non, c'est pas une plante qui attaque. C'est une plante qui est venue toute seule au jardin. Je l'ai pas invitée, mais elle est arrivée là, amenée par le vent, par les oiseaux. Et toutes les fleurs que nous achetons, tous les légumes dont on achète les graines ou les plants, ont tous un ancêtre sauvage.
Ça sert à quoi les plantes sauvages dans ton jardin ?
Donc tout ce qui pousse au jardin, avant de l'arracher, c'est bien de savoir qui c'est, s'il peut nous apporter quelque chose. soit parce qu'on peut le manger, soit parce qu'il va apporter du pollen aux insectes, soit parce que quelquefois il va être un bon couvre-sol. Et par exemple, moi j'ai gardé quelques, ben voilà, la Véronique. Elle est une des premières à fleurir. Donc elle est intéressante parce qu'à la sortie de l'hiver, elle va apporter du pollen aux insectes. Et puis après, elle va disparaître. Après avoir fait ses graines, elle va être absente quand on va avoir besoin, ben, par exemple, d'y mettre de la salade, tous les légumes de printemps. Alors elle, c'est pas l'ancêtre de nos légumes, mais elle a une fonction en tant que plante sauvage au jardin.
Oh, regarde la coccinelle!
Alors cette coccinelle, elle est sur les orties. Elle sort quand, à la sortie de l'hiver, on les voit magnifiquement rouges, brillantes sur les orties, les feuilles d'orties vertes là. Alors dans mon jardin, il y a des orties parce que c'est une plante qui est bénéfique sur de multiples aspects. Et entre autres, elle fait partie des plantes d'appel. C'est-à-dire, les pucerons, quand ils vont arriver dans mon jardin, ils iront tout d'abord sur les orties. Ce qui fait que les coccinelles vont arriver pour manger ces pucerons. Et elles seront là quand les pucerons chercheront à aller sur les fèves ou d'autres légumes du jardin. Avoir un petit territoire avec des orties, c'est toujours intéressant. On peut faire du purin d'ortie pour fortifier les plantations. On peut utiliser les jeunes pousses, là, la tête des orties, pour faire des bonnes quiches, des bonnes soupes. Donc il y a toujours des orties dans mon jardin, dans quelques endroits. Après, il ne faut pas les laisser devenir envahissantes, parce qu'elles vont se reproduire très facilement avec leurs graines, mais aussi avec des racines traçantes. Quand la terre du jardin est meuble, on arrive à arracher les racines des orties, et puis il faut savoir un petit peu négocier sur le territoire, quoi. Et puis celle-ci, elle pousse à côté d'un plantain que j'ai volontairement laissé ici aussi parce que ben, si on se pique avec l'ortie, la feuille de plantain écrasée avec les dents et frottée sur la piqûre d'ortie, elle soulage immédiatement. Elle soulage aussi très rapidement de piqûres de guêpes ou d'abeilles. Et puis le plantain est une excellente plante médicinale. En décoction pour les problèmes de conjonctivite, c'est fabuleux. En plus, elle peut se manger, les jeunes feuilles faisaient partie des salades à la sortie de l'hiver, salades sauvages, sur la table de nos aïeux, parce qu'elle a un bon goût et elle est tendre. Il faut prendre les petites feuilles du milieu.
Celle-là, elle est drôlement jolie.
Alors cette grosse plante avec plein de fleurs bleues magnifiques, c'est une bourrache. Elle n'est pas venue sauvage dans mon jardin, mais je l'ai plantée et elle s'est ressemée partout. Alors là où elle va me gêner, je vais l'enlever, sinon je la laisse parce que maintenant, à la sortie de l'hiver, les abeilles, les bourdons ont faim. Donc c'est une très belle fleur, riche en pollen, riche en nectar, qui en plus peut se manger. Elle est très jolie sur une salade, elle a un très bon goût de un peu de poisson, d'huître, enfin un petit goût particulier. Et c'est vraiment une compagne du jardin.
Ça c'est un pissenlit, les lapins ils en mangent.
Eh ben, il n'y a pas que les lapins, parce que nous aussi on peut en manger. Ces fleurs sont riches en pollen. Ces feuilles donc sont comestibles et avec les fleurs du pissenlit, ben, on peut faire d'excellentes vins de macération par exemple. Et c'est une plante comestible très belle. Il faut juste la laisser là où elle gêne pas, quoi.
Un beau petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'emmène à la chasse aux papillons. L'araignée rampante, la guêpe sauvage, la petite musaraigne, le rat des moissons, le chaton espiègle, l'alouette volage, tous recherchaient des papillons. Il ne savait pas que sous les nuages se cachait la mort et ses myrmillons. Dans les champs de blé et verts pâturages, l'abord des chenilles de papillons. Car ils ignoraient qu'après le passage du tracteur massif aux roues sans rayon, aux ailes déployées sur un fin nuage, il n'y avait plus de papillons. Chenille tordue morte sans ambage, il avait semé l'extermination de tous les petits et même davantage, hannetons, souris et papillons. Abeille perdue, le vagabondage avait remplacé l'orientation. Vers des ruches vides de leur rayonnage, elles erraient comme des papillons. Faute de couleur, faute de bruitage, la nature devenait désolation. Alors qu'elle était dans ce paysage, comme des ailes de papillons. Et toutes les fleurs que l'on dit sauvages, bleues, coquelicots, rouges, vermillons, qui faisaient le bonheur des enfants sages, s'étaient envolées comme papillons. Sans abeilles, les fleurs, faute de message, n'avaient plus d'amour, n'avaient plus d'union, et se désolaient de cette vie sans partage avec leurs amis les papillons. Même le petit diable à la fleur de l'âge, se voyant touché par la pollution qu'il avait goûtée dès son plus jeune âge, biberon décoré de papillons. Gamète raréfiée, le bilibertinage ne pouvait plus prospérer sans Cendrillon, malgré le plus charmant des remue-ménages, qu'on ait vu une mémoire de papillons. Un volcan dans l'âme, y revint au village, toussant et crachant leur désillusion d'être les victimes et même les otages de tous les tueurs de papillons. Vous les ignorants et vos épandages, vous les présidents creusant les sillons d'un avenir sans joie et sans vie sauvage, respectez au moins les papillons. Écoutez et transmettez le message de nos petits diables et nos cendrillons qui veulent vivre vieux et devenir sages avec des millions de papillons, des milliards de papillons.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission De la puce à l'oreille en compagnie d'Hélène Guyon qui nous parle aujourd'hui des plantes sauvages au jardin.
Ça, c'est une pâquerette.
Alors les pâquerettes, elles sont là au milieu de la planche d'aérocambole avec leurs cousines, leurs amies, les Véroniques, parce qu'elles sont souvent ensemble et ça fait vraiment un beau tapis de couleurs. Alors ces pâquerettes, c'est pareil, ça fait partie des auxiliaires du jardin dans la mesure où elles couvrent le sol, où elles ont des petites racines, elles ne vont pas être difficiles à enlever quand je déciderai de cultiver autre chose sur cette planche. Et elles ont plein de propriétés. La fleur peut se manger en salade, ça donne de belles couleurs. Les feuilles se mangent, elles aussi, dans la salade. Elles sont très bonnes quand elles sont jeunes. Et elles sont aussi médicinales, c'est-à-dire que la macération de feuilles de pâquerette dans l'huile laissée au soleil pendant 10 jours est tout aussi intéressante qu'une huile d'arnica. La pâquerette, c'est l'arnica de la plaine, en fait, du jardin.
Et ça, c'est quoi ?
Alors là, c'est une oseille sauvage. Hein. C'est un peu comme la bardane. C'est une grosse racine pleine de réserves qui va rester dans le sol. Mais en même temps, ça, c'est typiquement un ancêtre de nos légumes. Hein. On ne le trouve pas que dans le jardin. On le trouve un peu partout, l'oseille sauvage. C'est une tige très anguleuse. Et les feuilles peuvent se manger aussi en soupe, parce que c'est l'ancêtre de notre oseille. Et la tige, tout simplement, quand elle est encore bien tendre, qu'elle se casse facilement, on peut la couper, enlever toutes les nervures un petit peu dures qui sont tout autour, et manger le cœur de la tige, qui est acidulé et qui est vraiment excellent.
Ah ben ça, c'est un légume.
Alors oui, ça ce sont des poireaux anciens, des variétés anciennes, des poireaux perpétuels. Il existe aussi de l'ail perpétuel, un petit peu l'oignon aussi, qu'on appelle l'oignon rocambole. Alors ce poireau perpétuel se reproduit de deux façons. Il fait des fleurs avec des graines. Mais chaque pied de poireau va faire comme une tête d'ail, et avec des petits cailleux, des petites gousses. Et chaque gousse va donner un pied de poireau. Ce qui fait qu'il suffit d'en planter un et on en récolte 20. Et puis on peut aussi, quand ils sont jeunes, là, en hiver, moi je passe au jardin et je coupe des feuilles du pois, des poireaux, pour mettre dans des quiches ou dans des soupes. Donc c'est vraiment un poireau très généreux, qui n'attrape aucune maladie, qui n'est pas énorme, hein, c'est pas, il sera pas premier au concours des gros poireaux, mais il est très honnête et surtout très généreux.
Et ça, c'est quoi ?
Alors ça, c'est un ail rocambole. C'est donc une plante alors ancienne, mais pas sauvage. Hein. Elle a été sélectionnée quand même. Le principe, c'est de mettre en terre une gousse d'ail qui va se reproduire de deux façons. Elle va donner la tête d'ail qu'on connaît hein, dans le sol, c'est-à-dire au niveau de ses racines, faire des petites gousses. Et puis, au milieu, va sortir une tige qui va faire des circonvolutions, des volutes. Et au bout de cette tige, il va y avoir des petites graines d'ail, qui sont des petites graines rondes. Il y en a dans une petite enveloppe presque transparente. Ces petites graines d'ail, au bout de la tige, elles sont destinées à tomber dans le sol et se ressemer. Alors, on va recueillir... cueillir la gousse de la tête d'ail dans le sol, et on va avoir toutes les petites graines qui sont poussées comme donc au bout de la tige, on va pouvoir les recueillir et les replanter. Alors la première année, elles vont juste grossir, ça va donner une seule gousse un peu ronde, et la deuxième année, à cette gousse un peu ronde, il va y avoir des petites gousses d'ail qui ressemblent, voilà, qui vont se mettre tout autour, et le cycle est bouclé. Et c'est pareil avec une gousse d'ail. On a dans son jardin des centaines de gousses d'ail sans avoir fait grand-chose.
Est-ce que tu as d'autres légumes dans ton jardin ?
Et il y pousse aussi, on ne les voit pas maintenant, mais d'autres légumes sauvages intéressants comme le kénopode et l'amarante font partie de ces plantes spontanées, sauvages, qui sont très bonnes à manger.
Et ça se mange ?
Non, ça c'est une garance tinctoriale, donc qui est de la même famille que le gaillet gratteronde qui est beaucoup dans mon jardin, là, et qui est un peu envahissant. C'est la même famille que la garance sauvage, mais ça c'est une garance qui a été sélectionnée parce que ses racines sont très riches en pouvoir, en pigments tinctoriaux. Et ce sont des pigments de grand teint, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, on peut retrouver des milliers d'années après des tissus toujours teints en rouge par les racines de garance.
Ça sent la menthe ici.
Ça c'est une menthe poivrée. En fait, les menthes s'hybrident beaucoup entre elles. Hein. Et celle-ci, avec sa tige carrée rouge, ses feuilles très gaufrées. C'est une menthe poivrée. Donc celle-ci, elle est vraiment excellente en sirop et en tisane. Donc elle couvre le sol, sa fleur va attirer les insectes. Donc elle est utile là où elle est.
Moi, ma maman, elle m'a dit de pas manger les fleurs parce que c'était des poisons.
Alors, ta maman, elle n'a pas tout à fait tort, c'est-à-dire qu'avant de manger une fleur, quand on est un enfant, il faut toujours demander à un adulte qui connaît. Parce qu'effectivement, on peut très facilement confondre deux fleurs et il faut vraiment les connaître à coup sûr. La fleur, elle se reconnaît aussi à la plante entière, c'est-à-dire comment sont les feuilles, comment est-ce qu'elle est placée sur la tige. Donc tout ça sont des détails qui font qu'il faut avoir un peu ce documenté. Et c'est vrai que pas mal de fleurs sont comestibles, mais il ne faut surtout pas les manger sans avoir demandé l'avis à un adulte.
Merci beaucoup à Hélène Guyon pour cette visite riche d'enseignements. Merci bien sûr à Maëlle pour ses questions. Nous retrouverons Hélène Guyon lors de la prochaine émission qui nous parlera cette fois de la biodiversité animale au jardin ou comment mieux l'accueillir. Je vous rappelle qu'une manifestation nationale qui s'intitule « Rendez-vous au jardin » se déroule le week-end des 4 et 5 juin un petit peu partout en France. À Foix notamment, des jardiniers vous ouvriront leurs portes et vous feront découvrir leur passion. Vous trouverez plus d'informations sur les manifestations proposées par l'ANA dans ce cadre sur notre site internet www.ariegenature.fr. Au cours de l'émission, vous avez pu reconnaître la chasse aux papillons de Georges Brassens, mais détournée avec humour au service du jardinage sans pesticides par Monsieur Guyon, qui l'a composé à l'occasion d'une opération zéro phyto qui s'est déroulée autour du Vernet d'Ariège. C'était une émission proposée par l'ANA, réalisée par Carole Erskovici avec Julien Vergne à la technique. Merci encore de votre écoute.